Bonjour et bienvenue dans les rediffusions estivales de l'Atelier des médias.
L'Atelier des médias, Ziad Malouf.
Nous sommes le samedi 20 janvier au cœur de Paris à la Gaîté Lyrique. Il est 14h, une trentaine de personnes sont installées autour d'une grande table au fond de l'espace bibliothèque de ce lieu dédié aux cultures numériques.
Plus fort ? Plus fort, d'accord, parce que j'étais à parler moins fort à cause de la bibliothèque. Très bien. Donc, on va commencer juste rapidement donc, par une petite introduction à Wikipédia pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la contribution sur Wikipédia, etc. Ensuite, on va parler un peu plus spécifiquement du biais de genre, donc de pourquoi on fait ces ateliers, pourquoi les 100 pages, pourquoi des biographies de femmes aujourd'hui. Et ensuite, on va se lancer et on va directement commencer à éditer Wikipédia et à apporter nos petites contributions de cet après-midi.
La réunion à laquelle nous allons assister aujourd'hui est la première du genre à Paris. Elle est organisée par un collectif né en Suisse en 2016.
Alors, on est parti de Genève à 9h30 avec dans nos bagages de la fondue et les nouveaux t-shirts des 100 pages pour les apporter à l'atelier, le premier atelier des 100 pages à Paris. Je suis Natacha Rault.
Elle, c'est Natacha Rault.
Et j'habite à Genève, bien que je sois franco-britannique.
Natacha est donc la fondatrice genevoise du mouvement des 100 pages. 100, S-A-N-S, page, P-A-G-E majuscule S.
Les 100 pages, c'est une plateforme, un projet sur Wikipédia qui essaye de rassembler dans la Wikipédia francophone toutes les initiatives pour réduire le fossé des genres et les médiatiser. Voilà, on essaye de créer un espèce d'endroit où les personnes vont pouvoir se rencontrer à la fois virtuellement et aussi organiser des activités qu'on met en avant pour que les personnes se rencontrent comme aujourd'hui pour contribuer.
Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des médias. Le monde change et c'est, je l'espère, pour le meilleur en ce qui concerne les droits des femmes et la place qu'occupent nos mères, nos sœurs, nos compagnes, nos amis, nos voisines dans nos sociétés. Certaines évolutions se font, c'est normal, dans le bruit, le vacarme, les cris, les hashtags et la douleur. D'autres plus discrètes mais également importantes tiennent plus du travail de fourmi ou de copiste. Nous sommes donc un samedi de janvier et une trentaine de personnes, hommes et femmes, se sont donné rendez-vous pour s'attaquer au biais de genre, au fossé des genres, au gender gap que l'on trouve sur Wikipédia, cinquième site le plus visité au monde. Un déséquilibre que l'on peut expliquer par trois caractéristiques. Première, le manque de contributrices.
Alors, quelques chiffres. D'abord, en termes de contributions, on considère qu'on a à peu près 12 à 15% maximum de femmes qui éditent Wikipédia par rapport aux hommes. Donc là, c'est bien sur les contributeurs. On se rend compte que les femmes contribuent moins à Wikipédia que les hommes. Toutes sortes de raisons autour de ça.
Toutes sortes de raisons. Voici ce qu'en dit Natacha Rault.
Personnellement, je pense que les femmes ont moins de temps pour la contribution. Elles ont beaucoup de tâches à l'extérieur. Elles ont un pouvoir économique qui est moindre. Et donc, ça se traduit automatiquement par une moindre présence sur toutes les activités qui sont du bénévolat et qui demandent beaucoup de temps. Contribuer sur Wikipédia, c'est assez chronophage. Donc, on va constater des différences. Les femmes ont tendance à contribuer sur des ateliers ponctuels quand elles se réunissent. Et moins à la maison parce qu'elles ont moins de temps. Sauf quand on est une accro de Wikipédia comme moi, où moi je contribue un petit peu tous les jours parce que c'est devenu mon hobby.
Deuxième caractéristique, le manque de contenu féminin.
Donc le fait qu'il y ait moins de contributrices, eh bien cela fait que naturellement il y a certains sujets qui vont être moins représentés. Tout ce qui est le design, l'habillement, la mode, des sujets dits féminins sont moins représentés que les Pokémon et le football. Par exemple, on a tous les joueurs de foot du département 38 et tous les Pokémon, mais on ne va pas avoir toutes les femmes qui font de la politique au niveau national. Il y a des choses très concrètes où on peut se dire quand même, il nous manque des informations, il nous manque du contenu, et ces contenus encyclopédiques sont utiles aux femmes et aux hommes aussi.
Un deuxième chiffre qu'on peut citer, c'est les biographies. Alors la présence de biographies portant sur des femmes ou portant sur des hommes sur Wikipédia. Donc là, il y a 2-3 ans de ça, on était à 15%, ce qui n'est pas énorme. Moi, j'ai fait pas mal une petite enquête pour regarder quel était le type de biographie qu'on trouvait sur les femmes. Donc, de façon plus qualitative, j'ai regardé sur les pays africains et je peux vous dire qu'une très grosse partie des biographies qu'on trouve sur les femmes sont sur les sportives. les femmes sportives, on a des fans de sport, alors on a plein d'articles sur des femmes impliquées au niveau sportif. Et des politiques, parce que c'est relativement facile à écrire, on a pas mal de sources, et il est relativement facile d'établir la notoriété d'une personne. Par contre, dès qu'on parle d'écrivains, de peintres, d'artistes, d'une façon générale, alors là, les femmes, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ensuite, un troisième problème qui est plus difficile à mesurer, en fait, c'est quand on lit les articles, le contenu des articles, la façon dont ils sont rédigés, on se rend compte qu'il y a un biais. Et un biais qui n'est certainement pas volontaire de la part des rédacteurs. C'est quelque chose qui se produit, pourquoi, on ne sait pas. Mais on va par exemple trouver beaucoup plus de références à la vie personnelle d'une femme dans l'article qui la concerne que dans l'article d'un homme. Par exemple, dans l'article de la femme, on verra plus facilement, elle est mariée à machin et elle a 5 enfants. Il y aura un gros paragraphe sur sa vie personnelle. Et on observera également que l'article de la femme connue mène vers l'article de l'homme, mais l'article de l'homme ne mène pas forcément vers l'article de la femme. Et des petites choses comme ça, un petit peu subtiles. Donc, par exemple, pour donner un chiffre, il y a une étude suisse qui a été faite il y a 2-3 ans, et on a entre 4 à 8 fois plus de chances de trouver une référence au statut marital sur un article de femme qu'un article d'homme.
Et donc, troisième caractéristique, comme vient de l'expliquer Florence Devoir, la typologie des biographies de femmes est différente de celle des hommes. Le contenu est moins précis sur les aspects publics et plus intrusif pour ce qui est de la vie privée. Ces trois éléments constituent l'épine dorsale de ce qu'on appelle donc le biais de genre sur Wikipédia. Bien entendu, cette encyclopédie n'est que le reflet du monde qui l'a produite et c'est ce qui explique que la place de la femme y est moins confortable que celle de l'homme. Il n'empêche que depuis quelques années, des initiatives naissent partout dans le monde pour tenter de gommer cette inégalité. Wikipédia est un site prescripteur, une source d'information et ce doit être pour les sans-pages et les autres mouvements qui souhaitent lui rendre sa féminité un exemple. Les sans-pages féminisent Wikipédia, c'est une histoire signée Constance Léon, Simon de Creuse est à la réalisation.
L'atelier des médias.
Donc je suis Lexane, connue sous le nom d'Exilexi sur Wikipédia. Alors j'habitais en Irlande jusqu'à l'année dernière et je me suis mise à Wikipédia justement en voyant le projet Les 100 pages en me disant bah, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes et puis en plus j'ai toujours voulu participer à Wikipédia et j'ai jamais su par où commencer donc autant commencer par là parce qu'ils ont une bonne liste de travail. Donc j'ai commencé par ça, j'ai commencé à faire des éditions, ça m'a plu, donc j'en ai fait de plus en plus, j'ai commencé à en faire vraiment beaucoup et en août donc j'ai démissionné de mon travail en Irlande et je suis revenue à Paris. Et il n'y avait pas de groupe parisien puisque Les 100 pages au départ est un groupe suisse. Donc j'ai contacté Natacha qui est la fondatrice des 100 pages et je lui ai dit bonjour Natacha, moi c'est Exilexi, je viens de rentrer à Paris. On a déjà pas mal parlé sur les pages que j'ai créées, etc. J'ai fait 2-3 trucs pour le projet déjà. Est-ce que tu voudrais que je lance une série d'ateliers à Paris comment on fait? Et donc elle m'a dit mais il n'y a pas de problème, on se lance. Et nous, donc maintenant, j'ai eu de la chance parce que j'étais la première à vouloir le faire à Paris, donc c'est mon premier atelier aujourd'hui. Voilà, donc pour commencer, donc juste une petite introduction à Wikipédia pour les gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'histoire de Wikimedia en général. Donc Wikipédia, avant d'être Wikipédia, c'était Nupédia, donc c'est le tout premier projet, qui se voulait en fait uniquement écrit par des experts dans chaque domaine. Avec un petit article par un grand expert du domaine de temps en temps et on s'est retrouvé avec pas d'article parce que les experts avaient autre chose à faire. Donc, en 2001, Wikipédia a été lancé. Et Wikipédia, donc c'est le projet comme on connaît aujourd'hui, avec n'importe qui peut contribuer, à condition de pouvoir prouver les informations que la personne ajoute à Wikipédia.
Qu'est-ce que c'est les 100 pages ?
Alors les 100 pages, c'est un projet de Wikipédia et des projets frères de Wikipédia qui vise à augmenter la visibilité des femmes et à réduire le biais de genre sur Wikipédia. Donc quand on regarde un peu les chiffres, en fait en 2008 je crois, il y avait 16% de contributrices sur Wikipédia. Et en octobre 2013, on avait aussi 16% de biographies de femmes par rapport aux biographies d'hommes sur Wikipédia en français. Donc notre objectif, c'est de créer des pages en français, donc pour les 100 pages, en anglais pour Women in Red, qui est notre projet sœur international.
Donc les femmes en rouge.
Les femmes en rouge, exactement, parce que sur Wikipédia, quand on a un lien rouge, c'est qu'il ne mène nulle part, la page n'existe pas. Donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye de réduire avec les 100 pages en essayant de travailler plus sur la qualité et la quantité, d'essayer d'arriver le plus près possible de la parité, donc des 50% de biographies de femmes, admissibles bien sûr, sur Wikipédia en français.
Qu'est-ce que ça veut dire admissible ?
Alors admissible, ça veut dire que si j'ai envie de faire une page sur moi, je vais avoir un peu du mal parce que je ne suis pas assez célèbre ou je n'ai pas apporté assez de choses à la société en général pour avoir droit à une page Wikipédia. Donc par exemple, le critère de base, c'est d'avoir deux sources indépendantes, fiables, donc par exemple des médias type Le Monde, Libération, etc., nationaux ou internationaux, ou alors un livre écrit sur ma personne directement. Et si c'est des sources journalistiques, qu'elles soient espacées d'au moins 2 ans, donc que ce soit pas juste un buzz sur 3 semaines. Donc il y a quand même des critères, on ne peut pas écrire sur n'importe quoi sur Wikipédia, il faut que ça ait une valeur encyclopédique. Ce qui est la règle numéro 1 en fait de Wikipédia. Wikipédia est une encyclopédie, ce n'est pas un annuaire. Donc on ne peut pas juste faire notre page sur nous, il faut que les femmes soient admissibles, on n'écrit pas sur n'importe qui. Et donc aujourd'hui, on va faire des biographies, ce qui nous amène au sujet de « moi j'ai envie de faire la page de machin » ou en l'occurrence de Bidule. Est-ce que Bidule est admissible ? C'est-à-dire, est-ce que Bidule a le droit à une page Wikipédia ? Eh bien, il y a un certain nombre de critères à suivre quand même pour savoir si quelqu'un a droit à une page Wikipédia ou non. Il faut que cette personne ait 2 sources, donc 2 articles par exemple, ou 2 chapitres de livres. En général, c'est ça en fait. Ou un rapport, etc., qui parle de cette personne. Par exemple, je ne vais pas être admissible si demain il y a un article sur Le Monde, sur le projet Les 100 pages. Même s'il y a mon nom dedans, l'article n'est pas sur moi. Donc, ce n'est pas considéré comme une source acceptable. On a des gens qui viennent vraiment de tous les horizons et qui vont soit venir parce que ces personnes veulent découvrir comment on contribue à Wikipédia. Et dans ce cas, on va leur donner une biographie de femme parce que, tant qu'à faire, autant que ce soit par là qu'on commence. Ou alors, on va avoir des personnes plus militantes qui vont venir spécifiquement pour travailler sur le sujet des femmes dans Wikipédia et qui, au passage, vont apprendre à contribuer. Donc, on a vraiment ces 2 grandes catégories.
Une interview vidéo qui a été publiée par le site des Échos. Nous, on travaille là, en l'occurrence, sur une page qui a déjà été créée. Ça peut être une source suffisante.
Si la page existe, c'est quelle page ?
En fait, montrez-moi quelle page c'est. Cathy Miller.
Elle est pilote.
Elle est pilote automobile française. Et on peut voir...
Je voulais juste aller voir les sources, en fait, en bas. Je vois toutes les références.
Remporte le volant. Bah, ça m'a l'air... Bon, il faut aller cliquer dessus si ce n'est pas une interview, c'est une source secondaire et elle est le sujet principal de l'article. Ouais. Apparemment, après, il faut cliquer dessus. Ça, je ne sais pas. Libération.
Oui, mais c'est un article qui est écrit sur son frère, qui lui-même est pilote. Donc,
Dernière nouvelle. Alors ça, c'est régional. Alors on dit qu'il faut des articles d'audience nationale ou internationale.
Voilà. Pas évidente.
C'est pas évident. Après, il faut savoir aussi qu'est-ce qui se passe si un article est considéré pas admissible. Soit il est proposé à la suppression immédiate, alors là, il disparaît, vous ne voyez pas passer. Soit il y a quelqu'un qui vient mettre un bandeau rouge où il y a marqué admissibilité, l'admissibilité de cet article est discutée. Et après, c'est la communauté va s'exprimer et rechercher un consensus, et puis ça s'apparente, c'est pas un vote, mais quand même, les voix sont quand même décomptées. Si on voit qu'il y a 30 personnes pour la conservation d'un article, et 10 personnes contre, eh bien ça va être conservé. Donc là, vous pouvez par exemple aller voir, si vous cliquez ici.
Ok, bah, je m'appelle José, je suis plus ou moins étudiant, je suis récemment inscrit sur Wikipédia, très récemment en fait. Pour venir à cet atelier-là, j'ai créé mon pseudo il y a genre 2 jours ou un truc comme ça.
Moi, c'est Koulma, j'ai 22 ans aussi. J'habite sur Paris en ce moment, d'où ma venue ici aujourd'hui. Je suis contributrice sur Wikipédia depuis quelques mois, mais inscrite depuis plusieurs années, parce que j'ai pris du temps avant de passer à l'acte. Mais ça fait quelques années déjà qu'avec José, du coup, on se connaît et qu'on discute de l'intérêt de participer à Wikipédia comme étant l'occasion de participer à un truc un peu plus grand que soi. Et étant donné qu'au quotidien, ça reste quand même une source de connaissances vachement importante pour tout le monde, mais pour nous, enfin pour moi en tout cas. Moi, c'était l'occasion. Enfin, j'ai créé mon compte dans cette idée-là de pouvoir contribuer un truc qui me dépasse un peu, quoi. En plus, je crois que c'est le premier du coup qui se passe à Paris. Et j'étais assez étonnée de savoir qu'il n'y avait pas d'autres démarches qui avaient déjà été mises en place en France. Je vois qu'en Suisse, la communauté est plus active qu'ici. Et moi, j'étais assez étonnée. Du coup, c'était aussi l'occasion de, ouais, de marquer le coup en profitant de cette occasion-là pour rencontrer les contributrices actives de la communauté française et féministe aussi. Et je trouve que c'est une belle occasion aussi de réunir des sujets militants, à savoir d'un côté le féminisme et de l'autre côté le fait de contribuer à une encyclopédie libre en ligne. C'est chouette d'avoir l'occasion de lier ces deux actes militants en un seul, quoi.
Est-ce que vous avez déjà traduit, créé ou modifié un contenu d'article sur une femme ?
Ouais, j'ai traduit deux pages de biographie de femmes artistes, une malienne et une femme américaine qui avait déjà une page française mais qui racontait pas grand-chose de sa vie, et Johanna Newsom. En parallèle de ça, j'ai aussi traduit plusieurs pages de musiciens hommes, cette fois, mais africains, et qui souffrent aussi d'un manque de représentation sur Wikipédia.
Ah, et l'article sur Libé, on peut reprendre des trucs sur son frère. Il précisait pas qu'elle avait gagné en 79 aussi. Il faut qu'on écoute la vidéo des Échos.
Libé, c'est où Libé ?
C'est marrant parce qu'une info qui ressortirait du Figaro, très clairement, je ne la prendrais pas d'office, je chercherais à la vérifier, alors que... Ouais, non, mais c'est...
C'est un peu biaisé comme ça. Au bout de la neutralité, cool.
José, pour toi, le fait d'être un homme dans un atelier des 100 pages où on essaye de favoriser les contributrices, est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ta volonté de participer ou pas du tout ?
Je crois pas, enfin je sais pas. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est important qu'il y ait aussi plus de contributrices, parce que forcément ça diminue le risque de biais, mais après c'est pas parce que je suis un homme que du coup je vais amener moi ce biais-là, enfin. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'il y a aussi des hommes qui s'intéressent à ce genre de questions.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Bah, on voulait créer une page à partir de rien, parce que faire des traductions, c'est quelque chose qu'on connaît déjà un peu mieux. On voulait faire ce travail de rechercher les sources, etc. Sauf que le domaine du ski, ça ne nous intéresse pas trop. Donc finalement, on est tombé sur une page française qui existe déjà, celle de Cathy Muller, qui est une pilote automobile française dans les années 70, un truc comme ça. Et on va le rechercher parce qu'on a trouvé des sources qui donnent des infos qui ne sont pas encore sur le wiki, qui nous semblent intéressantes.
En fait, c'est un petit peu la question de comprendre ce qui est vraiment une source de première main et qu'est-ce qui fait qu'une source devient authentique. Parce que moi, je pose la question à Cathy Muller de quand est-ce qu'elle a commencé le karting. Elle va me dire en 1975, cette information, elle ne sera pas valide parce que c'est moi qui l'ai récoltée de première main. Par contre, si c'est Libération ou Les Échos qui posent la question à Cathy Muller, quand est-ce que tu as commencé le karting, qu'elle répond en 1975, est-ce que parce que c'est Les Échos ou Libération, ça va devenir une information fiable, qu'est-ce qui fait cette nuance-là, qu'est-ce qui fait... C'est le fait que les Échos ou Libération, c'est censé être un journal fiable et que du coup, ils vont vérifier l'information après, enfin qu'on suppose ça, mais en vrai, on n'en sait pas grand-chose. Fin...
Mais c'est vrai que tu as toujours une part de « on suppose que ». J'ai l'impression qu'il y a quand même une part de « on suppose que les journalistes aient fait le travail de recoupement des sources eux-mêmes, etc. etc. » Ce qui, je pense, c'est souvent le cas, mais au final, j'en sais rien, quoi. Enfin,
un petit peu ça dans le côté « on va chercher une source fiable ». Enfin, quand on dit « Libération, c'est une source fiable », c'est parce qu'on suppose que c'est les gens qui ont quand même une certaine pratique journalistique et qui...
C'est une source fiable, mais...
Donc là, par exemple, c'est vraiment cette date-là qui vous pose question ?
En fait, c'est un élément en particulier qui, en plus, était un peu intéressant dans le sujet. Parce que du coup, on cherchait dans les sources qu'on a trouvées quelque chose qui n'était pas déjà présent dans l'article, qui pouvait apporter quelque chose. Et du coup, c'était du coup Cathy Muller qui parlait du sujet, enfin du fait d'être une femme dans le milieu de la pratique automobile. Et du coup, d'autant plus dans le sujet d'aujourd'hui, ça nous paraissait intéressant.
Et où est-ce que vous avez trouvé cette information ?
Bah là, on est tombé sur un livre qui s'appelle « Les femmes pilotes de Formule 1 », où elle raconte ce que c'est d'être une femme dans un milieu sportif très machiste. Et donc, ça, je pense que ça va se traduire par juste l'ajout d'une phrase sur l'article, à savoir, elle s'est prononcée plusieurs fois publiquement sur sa condition de femme dans un métier d'homme. Et rien que cette phrase-là, elle me semble pertinente à rajouter sur son article Wikipédia, tu vois.
Tu peux lire la phrase ?
Il y a des pilotes qui n'aiment pas se faire battre par des femmes. Certains essayent de nous intimider en vous donnant des coups de roue ou en essayant de vous sortir. C'est déjà difficile de sortir du lot, mais quand vous êtes une femme, c'est deux fois plus dur.
Vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur RFI. Rediffusion aujourd'hui de notre émission Les 100 pages féminises Wikipédia, signée Constance Léon, Simon Decreuse et Ziad Malouf.
Alors on a pas mal de monde, la table est complètement pleine, donc je dirais qu'on a pas loin de 25 personnes du coup, je suppose. Et sur ces 25 personnes, il doit y avoir un peu moins d'une dizaine d'hommes. Donc c'est raisonnable, surtout par rapport aux autres ateliers où j'ai déjà eu l'occasion d'aller, où il y avait un homme dans le meilleur des cas. Donc là, on n'est pas très loin de la parité, donc c'est cool à voir que c'est pas que des femmes qui s'investissent pour les femmes. Et tout se passe super bien, tout le monde arrive bien à avancer, les pages sont créées, les pages sont traduites, les pages sont modifiées, ça fait trop plaisir à voir. Je vois personne qui a des grosses difficultés, donc c'est top.
Les 100 pages, SANSPAGES, c'est un groupe de femmes et d'hommes qui depuis 2016 tentent de corriger le biais de genre sur Wikipédia en français. Le biais de genre, c'est une tendance lourde de cette encyclopédie à privilégier les contenus qu'on pourrait qualifier de masculins, c'est-à-dire des biographies d'hommes ou des centres d'intérêt liés aux garçons.
Pour moi, c'est clairement un reflet de la société dans laquelle on vit, où par exemple, les hommes sont beaucoup plus mis en avant sur tout ce qui est invention scientifique, etc. Où on va dire, oh là là, machin a inventé ça et il est trop intelligent, alors que c'était le seul homme de l'équipe en fait. Sauf qu'on ne parlera jamais de ces femmes, ou alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est les femmes qui ont tout géré. Je pense par exemple à Catherine Wright, qui est la sœur des frères Wright qui ont inventé les premiers avions, enfin qui ont en tout cas été très importants au tout début de l'aviation. Je n'ai pas encore écrit sa page, mais donc elle n'a pas de page, alors que sans elle, concrètement, l'entreprise n'aurait pas existé. C'est elle qui gérait tout ce qui n'était pas invention pure dans l'entreprise. Et elle n'a pas eu de page parce qu'elle est considérée comme insignifiante. Donc tout ça, c'est le genre de biais en fait qu'on voudrait corriger, parce que dès qu'on parle de sous-discipline déjà, parce que quand je parlais tout à l'heure de couture, de broderie, d'art plastique en général, ou de littérature, ou de sciences humaines et sociales, qui sont très sous-représentées dans Wikipédia, c'est aussi parce qu'on les considère comme moins nobles que d'autres sciences qui vont être beaucoup plus représentées, en particulier au niveau des sciences fondamentales, mathématiques et physiques. Donc là-dessus, on a un très gros biais dans la société en général, et forcément ça se reflète chez Wikipédia, parce qu'on estime que les sujets ne sont pas dignes d'être étudiés alors qu'ils le sont, et que surtout Wikipédia n'a pas de taille maximum, donc on peut y aller, on n'est pas obligé de se censurer, c'est pas une encyclopédie papier où il faut choisir ses sujets. S'il y a quelque chose qui est notoire, on peut en parler, point. Donc il faut qu'on le fasse.
On va aller sur sa page anglaise, et on va utiliser les catégories, celle-là. Voilà. Tu vas dans les catégories, tout en bas de la page. Et là, tu vas avoir American Female, il faut trouver sportive, Mixed Martial Artists. Voilà, tu cliques.
Lutter contre la surreprésentation masculine de Wikipédia n'est pas chose aisée. Cette encyclopédie est libre, participative et bénévole. Elle implique des centaines de milliers de personnes, surtout des hommes, dans le monde. Pour changer la donne, les 100 pages proposent une série d'outils en ligne qui facilitent, encouragent et mettent en valeur, sur Twitter notamment, la rédaction de biographies de femmes. Le projet, en parallèle, organise des ateliers de sensibilisation et d'édition, c'est-à-dire d'écriture thématique, des événements ouverts, gratuits et mixtes.
Alors, moi je suis GC1, donc je suis administrateur sur Wikipédia depuis début 2017, et avant ça j'ai contribué pendant environ un an et demi. Alors un administrateur, c'est quelqu'un qui a des outils en plus pour gérer la maintenance technique de l'encyclopédie. C'est pas quelqu'un qui a plus de pouvoir éditorial qu'une autre personne, donc il répond aux mêmes règles. Et les administrateurs, généralement, c'est des personnes de confiance qui ont été élues par la communauté, donc il y a un vote, et voilà. J'ai toujours été intéressé donc par les questions féministes et la représentation des femmes et du genre dans la culture. Et le projet Les 100 pages, il offre une espèce d'espace d'entraide, de soutien pour à la fois les débutants, mais aussi pour les contributeurs avancés. C'est quelque chose qui est vraiment particulier, je pense, dans Wikipédia. Il n'y a pas énormément de projets qui ont autant de monde. Au moment de l'atelier, on ne va pas forcément être les plus productifs, nous, en tant que contributrices et contributeurs expérimentés, puisqu'on va aiguiller les nouveaux. Mais c'est ça, justement, qui est intéressant, c'est qu'on va former des gens à la contribution bénévole sur Wikipédia, et ça va leur permettre d'avoir plein de nouvelles personnes intéressées par la question, et ça va forcément amener, disons, il y a une certaine diversité qui va ressortir de ça, puisque les profils qui vont être présents à l'atelier, c'est pas des profils forcément qu'on retrouve dans le Wikipédien typique, qui va plutôt être quelqu'un, donc un homme blanc diplômé, qui a un peu de temps du coup pour contribuer. Et c'est vrai que, en tout cas sur Wikipédia, je pense que ça peut n'être que bénéfique.
Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être concrètement la dernière fois que tu étais confronté sur Wikipédia à un biais de genre et comment tu l'expliques et comment tu l'as résolu surtout avec les 100 pages ?
La dernière fois, j'ai dû sûrement une page d'une actrice espagnole, je ne me rappelle plus du nom. Et concrètement, la page était sourcée intégralement avec des articles de Press People qui nous retranscrivait absolument toutes les phrases amoureuses possibles de cette actrice. Et la section biographie, donc carrière, biographie, était vide. C'est-à-dire, il n'y avait littéralement même pas le lieu de naissance, c'était vide. Il y avait juste la phrase d'introduction qui avait la date de naissance et le lieu de naissance. Et comment j'ai fait, c'est que j'ai fait le tri, tout simplement. Qu'est-ce qui était pertinent, qu'est-ce qui n'était pas pertinent. J'ai rajouté son nom de famille, puis je suis allé chercher des sources et j'ai agrandi sa biographie, la section consacrée à sa carrière. J'ai rajouté les films dans lesquels elle avait joué, qu'elle avait produit. Enfin, voilà. C'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe. Une résolution de biais de genre, entre guillemets. C'est pas, on n'a pas une mission dédiée à ça, on n'est pas l'équipe qui résout les biais de genre, mais des fois, c'est vrai que ça nous, on tique un peu. En tombant sur un article, on se dit, ouais, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Sur l'histoire de, ouais, des références.
Et les références, tu cliques directement sur... non, de l'autre côté. Voilà, tu cliques ici. Et voilà, ça te les met automatiquement.
Et du coup, ça ne touche pas.
Et c'est tout bon. Oui, enfin, relis peut-être si tu veux faire une relecture de ton article. Mais sinon, après, tu fais publier la traduction et ça te mettra le lien de l'article et tu pourras aller voir.
Ok, cool.
Voilà. Je m'appelle Falaka, j'ai 22 ans. Je contribue sur Wikipédia depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé, et je fais toujours ça en fait, par des traductions d'articles. Donc au début, c'était plus en référence à la culture espagnole, des petits plats. Mon premier article, c'est une petite pâtisserie espagnole andalouse. Je mets à disposition de Wikipédia le fait que je parle espagnol et que je bosse toute la semaine en espagnol. Et du coup, je comprends tout. Et donc, il y a énormément d'articles sur des femmes qui n'existent pas. Et c'est assez frustrant en tant que femme de voir que... là, par exemple, l'article que je suis en train de traduire, c'est une nageuse mexicaine qui a gagné une médaille en 1968. Donc, ça date un peu. Et elle n'a toujours pas d'article en français. C'est assez surprenant. Et donc, ça m'est venu juste le fait de me dire comme je peux aider, autant le faire dès que je peux.
Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour toi, les 100 pages ?
Rencontrer des gens, déjà, c'est super de rencontrer des personnes qui partagent le même espoir, la même envie de faire apparaître plus de femmes sur Wikipédia. Et ensuite, c'est bien pour moi en fait, de me dire que je sers à quelque chose et que je peux mettre à profit mes compétences en langue étrangère pour améliorer l'encyclopédie. Puisque plus on verra de femmes, plus on se rendra compte qu'il y a des femmes qui peuvent être boxeuses, qui peuvent être chefs de grandes entreprises, etc. Et donc, c'est cool pour le regard qu'on porte sur nous, quoi. Être contributeur ou contributrice sur les 100 pages, c'est avoir la mission de combler le gender gap, c'est-à-dire...
Le fossé de genre.
Oui, pardon, le fossé de genre. Je cherchais la traduction, mais je l'avais en espagnol, donc ça ne va pas aider. Et donc, créer des articles qui concernent les femmes, mais également les personnes LGBT+, le féminisme en général, les différents courants féministes, toutes les femmes du monde entier, dès que possible, puisqu'il y a parfois des difficultés au niveau des sources. J'en parlais d'ailleurs récemment par rapport à quelles sources accepter, par exemple, en Afrique, quels sont les médias qui sont considérés comme important, comme on ne le sait pas, c'est difficile pour faire des articles. On peut faire des traductions, on peut améliorer des articles, on peut en créer. C'est assez libre en fait, on peut faire plein de choses finalement.
Nous l'avons expliqué, une des raisons principales du manque de contenu féminin sur Wikipédia est la quasi-absence de contributrices, qui représentent seulement 15% des auteurs de cette encyclopédie. Les 100 pages tentent donc de corriger le tir en facilitant l'implication de nouvelles femmes dans Wikipédia et en expliquant les règles simples mais précises de ce projet.
Alors, il y a 5 grands principes de Wikipédia. Le premier, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un blog, c'est pas un site d'actualité, c'est une encyclopédie, c'est à valeur encyclopédique. La deuxième, c'est que Wikipédia est neutre. Donc, par exemple, les démarches militantes, dans un sens comme dans l'autre, ne sont pas acceptées. On va par exemple pas trouver d'écriture inclusive sur Wikipédia. Par contre, la féminisation des titres de métier dépend de la personne qui l'écrit en premier. On n'a pas le droit d'aller modifier, dans un sens comme dans l'autre, ce qu'une autre personne a écrite, parce que justement c'est un sujet assez sensible. Le troisième principe, je l'ai oublié.
Je souffle, c'est que Wikipédia est publié sous licence libre, règle qui s'applique à tous ses contenus.
Le quatrième principe, c'est que Wikipédia est régi par des règles de savoir-vivre. Donc, on ne se prend pas le chou avec les gens pendant 10 heures. Quand il y a un problème, on essaye d'inclure d'autres personnes dans la conversation. On a les projets qui permettent de discuter donc entre personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. On va avoir par exemple un projet cinéma, un projet sport, etc. Et donc on va pouvoir toujours faire appel à la communauté en fait quand il y a un conflit et on ne veut surtout pas partir dans les attaques personnelles, etc. Et le dernier principe fondateur de Wikipédia, c'est qu'il n'y a pas d'autres règles. Donc tout le reste, c'est des recommandations, mais l'idée, c'est vraiment foncer. N'hésitez pas, si vous avez une question, posez-la. Si vous avez un doute, faites ce que vous voulez faire, et puis au pire, on vous dira qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est toujours mieux que de ne pas le faire du tout.
C'est donc assez simple. 5 principes majeurs, dont le 5e établit que toutes les autres règles, tous les autres usages sont révocables. Wikipédia est un univers de consensus, de débat, de discussion, parfois houleuse, un vrai bistrot, pour reprendre un terme bien connu des usagers de ce projet planétaire.
Le bistrot, effectivement, donc c'est la communauté en général de Wikipédia qui s'y retrouve, donc on n'a aucune obligation d'y aller, mais en gros, chaque jour, il y a une nouvelle page de bistrot qui est créée, donc où tout le monde peut poser ses questions, démarrer ses débats, avoir les discussions avec n'importe qui d'autre, en fait, au sein de Wikipédia. Donc c'est un peu le... Bah, c'est le bistrot, quoi. C'est la place de rencontre générale de Wikipédia.
Et justement, sur cet espace de discussion générale, est-ce que certaines contributrices, dont toi peut-être, rencontrent des difficultés avec des contributeurs qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits, qui pourraient faire des attaques sur des pages concernant des femmes ou écrites ou modifiées par des femmes?
Oui, alors par exemple, quand je reprends l'exemple de l'écriture inclusive, en fait c'est parce que c'est un marronnier sur le bistrot, c'est-à-dire un sujet qui revient tout le temps avec des grosses prises de bec à chaque fois, et c'est pour ça qu'on a décidé que même nous on n'y toucherait plus en fait, et qu'on allait plutôt se concentrer sur vraiment la création de contenu qui ne peut pas être remis en question parce qu'il est forcément pertinent, au-delà d'une quelconque valeur militante. Et même plus en général, oui, les prises de bec sont assez fréquentes. Après, il y a très peu de cas de harcèlement ou vraiment de problèmes ciblés et récurrents. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a les mêmes biais que n'importe qui ou ailleurs en fait dans la société d'aujourd'hui par rapport au féminisme.
Le bistrot virtuel de Wikipédia est donc un lieu de discussion pour utilisateurs et utilisatrices avertis. Comme dans le bistrot du coin, on y plaisante, on s'y informe, on s'y engueule aussi, par exemple, au sujet de l'écriture inclusive et particulièrement l'insertion de points et de à la fin de certains mots pour inclure le féminin. Au bistrot des Wikipédiens francophones, on invente et on réinterprète les règles de ce vivre ensemble numérique.
Alors, il y a eu une guerre d'édition il n'y a pas très très longtemps sur Theresa May, donc la première ministre britannique. Donc une guerre d'édition, c'est quand tout le monde passe dans la journée pour éditer la même chose en permanence. Donc en fait, quelqu'un est arrivé et a dit première ministre et quelqu'un d'autre a dit non, premier ministre, et ça a duré pendant des jours. Et finalement, ça s'est terminé sur le bistrot où on a dit non, alors attendez, il y a consensus. On a dit que quand quelqu'un écrit premier ministre, ça reste premier ministre. Quand quelqu'un écrit première ministre, ça reste première ministre. On n'édite pas derrière quelqu'un.
Donc il y a quand même une sorte de jurisprudence Wikipédia.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a vraiment les 5 règles fondamentales, mais par contre, c'est toujours ouvert au débat et il y a beaucoup de recommandations qui ont quand même pas mal valeur de règles. On a le droit de les remettre en question, alors que les 5 grandes, on ne peut pas les remettre en question, c'est un fait, c'est pour ça que Wikipédia existe. Par contre, toutes les recommandations, comme par exemple l'écriture inclusive, on espère qu'un jour ça changera. Mais pour l'instant, c'est une recommandation, donc on ne la remettra pas en cause tant que ce ne sera pas tout en haut de notre liste de priorités. Parce que là, ça va démarrer une grande guerre, donc il faut que tout le monde soit prêt.
Qu'est-ce que tu veux dire par la grande guerre ?
Non, c'est un... Même sans militer de notre côté pour absolument imposer l'écriture inclusive, etc., quand quelqu'un essaye d'en glisser dans un article, on peut partir dans des assez longs débats sur le bistrot, justement, où on va avoir 20 personnes qui disent « Ah non, c'est inacceptable, c'est laid, c'est moche, c'est... Mais l'Académie française, etc. » Il va y avoir du gros, gros, gros débat si un jour on lance cette question en public, et on ne le fera pas. En tout cas, pas sur le court terme, parce que c'est totalement inutile et que ça nous fatiguerait pour rien.
Natacha Rolt est l'initiatrice genevoise du mouvement des 100 pages.
Alors, c'est comme toute question sur Wikipédia, il y a des discussions communautaires longues et longues et longues depuis très très longtemps. Moi, je voulais avoir une discussion au sujet du langage épicène, parce que je ne parle pas d'écriture inclusive. Je préfère épicène parce que c'est la neutralité par rapport au genre. Donc, je préfère que non sexiste ou inclusive. Parce que inclusive, on va parler de choses qui n'ont rien à voir avec le biais de genre. C'est l'écriture inclusive, ça va un petit peu au-delà. Donc, le mot épicène dans le mouvement féministe existe depuis longtemps. La formulation écriture inclusive, elle est sortie ces derniers temps. Je ne sais pas trop d'où ça sort. J'ai l'impression que c'est un petit peu une édulcoration et je trouve le mot langage épicène plus précis. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on veut féminiser ou masculiniser, non, on veut juste que ce soit neutre au point de vue du genre, de manière à ne pas faire non plus de faute de sens. Par exemple, je pense à la fameuse phrase de Benoît Groulx qui disait « 100 femmes et un chien sont revenus contents de la plage ». Et moi, je rajoute toujours un peu pour rigoler en remuant la queue. On voit très bien que là, du coup, c'est pas très précis d'un point de vue linguistique et sémantique. Moi, j'ai eu l'idée avec d'autres contributrices, Anne Baumstimmler, Kfar Degdou, d'organiser une conférence à la première Wikiconvention francophone sur le langage épicène pour expliquer aux Wikipédiens et Wikipédiennes qu'est-ce que c'était que le langage épicène. Et là, on a fait appel à des spécialistes, des personnes dont la spécialité, c'est la linguistique, qui sont venues expliquer que à l'Académie française, il n'y a pas de linguiste, il n'y a pas de grammairien. Il y a des personnalités du monde littéraire et politique. Donc, on ne peut pas s'appuyer que sur le jugement de l'Académie française sur ces questions-là. Et en plus, le jugement de l'Académie française est un jugement franco-centré. Wikipédia n'est pas française. Wikipédia est francophone. Et dans la francophonie, il y a l'Afrique, il y a le Québec, il y a la Belgique, il y a la Suisse. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de regarder qu'est-ce qui se passe aussi dans ces autres pays. Et la France, je crois, est un peu en retard par rapport au Québec et à la Suisse sur ces questions-là. Moi, en tant que Française, travaillant à l'Université de Genève, j'ai été confrontée à une charte épicène. Au début, ça a été difficile. Moi aussi, je trouvais les points, les tirets pas beaux. Et ensuite, je me suis trouvée face à la situation où, venant en France, quand je voyais les textes non rédigés en épicène, ça me choquait beaucoup. Donc, je crois que c'est comme les épinards pour les enfants. Tant qu'on ne l'a pas goûté 5 fois, eh bien, on trouve ça pas bon, pas beau et laid. Mais ça, c'est pas des arguments.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine à la Gaîté Lyrique à Paris en compagnie des 100 pages. Ce mouvement né en Suisse tente d'accroître le nombre d'articles et de références féminines sur la version francophone de l'encyclopédie mondiale libre et participative Wikipédia.
Par contre, il ne faut pas mettre de liens externes dans l'article. Ça, on n'a pas le droit. Donc les liens externes, on les met comme source en général. Voilà. Et puis s'il y a des sites web personnels, on les met en liens divers. Bon là, ça, en général, ça rentre pas. En question.
Un blog personnel, c'est-à-dire un blog ou quoi?
Un blog, par exemple, si c'est une youtubeuse, on pourra mettre dans liens divers le lien vers son compte YouTube ou sa chaîne. Si c'est une artiste, on peut mettre le lien vers son site web. Mais ça, on mettra dans lien externe. Et on ne peut pas mettre dans le corps de l'article un lien externe. Ça peut que être des sources ou des liens internes.
Voilà. Alors, je suis Harmonia Amanda. Donc, je suis arrivée sur Wikipédia en 2008. À l'époque, je m'étais inscrite pour corriger 2-3 virgules et ce genre de choses parce qu'il y avait un bouton modifié, donc j'ai modifié. Je me suis impliquée vraiment dans Wikipédia quelques mois plus tard. Et après, j'ai commencé à vraiment contribuer fréquemment, beaucoup. Je suis devenue admin Wikipédia en 2009. Ça veut juste dire que je fais du nettoyage en plus. Je trouve que ça s'est sacrément diversifié. Moi, Harmonia Amanda, c'est un pseudo féminin assez marqué. Il y a eu des moments en 2008-2009 où je me sentais vraiment, vraiment toute seule. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Vraiment beaucoup moins le cas. Bon, on n'a qu'à regarder autour de la table, quoi. En 2008, on faisait des ateliers ouverts à tout le public. Venez découvrir Wikipédia. On avait 2 nanas et 30 mecs. Ça s'est quand même sacrément démocratisé. Et franchement, pour y être depuis 10 ans, on a sacrément progressé. On a encore des trucs à faire, mais on a sacrément progressé. Après, sur les biais, autrement, pour les trucs d'aujourd'hui, c'est une autre question complètement différente. C'est parce qu'on n'est pas sur qui écrit, on est sur quoi écrire. Et là, finalement, Wikipédia fait peut-être mieux en fait, qu'un certain nombre d'autres sources. Parce que moi, je suis historienne de formation. Soyons clairs, la plupart des biographies historiques que vous avez sur les étagères des bibliothèques, c'est sur des mecs, quoi. Donc, sur Wikipédia, on en arrive et c'est facile d'aller faire les stats en disant que nous avons 15% de biographies féminines. Je suis pas sûre que nos stats soient pires. Si on prend n'importe quelle bibliothèque de recherche en vrac, je suis vraiment pas sûre que nos stats soient pires, en fait. Mais aussi, en fait, la société, d'une façon générale, a privilégié pendant des siècles et des siècles les histoires de mecs. Et donc, c'est plus facile de contribuer sur les mecs. Et si vous n'êtes pas entraîné à avoir le biais de genre et à vous dire « Non, mais en fait, je vais aller contribuer sur cette nana parce que j'ai des sources et que c'est possible, même si ça va me demander un effort initial un peu supérieur au début », ben en fait, c'est pas forcément quelque chose d'évident quand vous êtes là et vous dites « Mais de toute façon, j'ai absolument aucun théologien du premier protestantisme, il me les faut tous, vous n'allez pas spontanément aller vous dire qu'il y a eu des nanas qui ont été influentes dans cette première vague du protestantisme alors que votre sujet, il n'y a rien qui est couvert dessus. » Et après, vous vous rendez compte et vous faites des ateliers spécifiques. Mais c'est compliqué. Et je suis vraiment pas sûre que Wikipédia fasse pire que le reste de la société en général sur ces questions-là. Et au moins, nous, on en a conscience et on essaye d'améliorer les choses, ce qui aussi est un progrès. Voilà, du coup, j'ai un peu blablaté sur plein de trucs, mais j'espère que ça répond à la question.
Donc, l'essentiel, la chose la plus importante avant de commencer, c'est de sourcer les informations. Si on a une information, il faut qu'elle soit vérifiable. Alors ça peut être dans un journal, ça peut être dans un magazine, ça peut être dans un livre, sur un site web, dans un rapport ministériel, ce que vous voulez. Mais par contre, il faut que ce soit fiable.
C'est vrai que Wikipédia doit s'appuyer sur des sources. Et que donc, si les sources ne sont pas paritaires par rapport à la représentation des femmes et des hommes, eh bien, ça va automatiquement être répercuté sur Wikipédia. Donc quand des journalistes me disent « Ah là là, Wikipédia est sexiste », je dis « Oui et non ». J'ai jamais vu encore une seule communauté qui accepte une féministe comme moi, qui accepte d'avoir un débat sur le langage épicène et qui, surtout, est aussi inclusive par rapport à ces débats. C'est-à-dire que les choses avancent très très vite sur Wikipédia. Par contre, au niveau du journalisme, si on n'a pas de journalistes qui écrivent sur des femmes, eh bien, on n'a pas de source. Et si on n'a que des interviews sur les femmes, eh bien, on n'a pas de source non plus, parce qu'une interview est une source primaire et ne fonde pas l'admissibilité d'un article. Donc moi, j'invite les personnes personnes qui font du journalisme à se poser soi-même la question de la parité dans leur pratique et dans leur métier. Nous avons besoin, messieurs et mesdames les journalistes, que vous écriviez sur des femmes notoires, remarquables, pour reprendre vos sources.
Lexane, alias Exilexi, est l'initiatrice des ateliers 100 pages à Paris.
Je me considère comme féministe militante. Je ne pense pas que ce soit au centre de mon engagement sur Wikipédia. Sur Wikipédia, je ne vais pas militer pour le féminisme, je vais créer des contenus intéressants et nécessaires sur des femmes et sur le féminisme en général. Ce qui, pour moi, n'a rien à voir parce que quelqu'un d'absolument pas féministe pourrait faire exactement le même contenu que moi. Et je ne pense pas que le militantisme lui-même ait sa place sur Wikipédia parce que j'aimerais pas non plus croiser des militants masculinistes sur Wikipédia. Donc je préfère me cantonner en fait à ce qui est vraiment un ajout de valeur et d'information à Wikipédia.
Natacha Rolt est à l'origine du mouvement des 100 pages.
Alors moi j'ai vécu dans ma vie de femme de la violence, notamment conjugale et domestique. Et finalement, ce projet des 100 pages, c'est une manière de sortir d'une confrontation pour aller vers quelque chose de positif par rapport à ce vécu personnel qui était très lourd. Quand on est victime de violences conjugales et qu'on a des enfants, on ne peut pas aller sur Twitter et faire un hashtag MeToo ou balance ton porc. Parce que, évidemment, on a des enfants. Et que tout ce qu'on va pouvoir écrire sur leur père, finalement, va les atteindre aussi. C'était pour moi aussi le moyen de parler de sujets, de documenter des parcours de vie pour que les jeunes filles et les femmes puissent se référer à des rôles, que ce soit libres et gratuits. Par exemple, j'ai beaucoup été marquée aussi par la rédaction d'articles sur les premières avocates en Suisse. Les premières personnes qui ont passé leur diplôme de droit en Suisse, elles ont terminé à l'hôpital psychiatrique. Elles n'ont pas pu exercer leur métier et donc ça a été horrible pour elles. Elles se sont enfermées dans une spirale qui a été très difficile. Je pense à Marie Dantière aussi, qui est une personnalité de la réforme à Genève et qui n'a été redécouverte qu'en 2003. Elle a été témoin de la réforme à Genève et son nom a disparu pendant des siècles. Donc comme Marie Dantière le disait au moment de la réforme, elle avait un argument religieux, elle disait « mais si Dieu nous a donné tous ces talents, ce n'est pas pour les cacher et ce n'est pas parce qu'il y a des contradictions et des pressions pour les cacher qu'il faut obéir à ces pressions. » Donc pour moi, les 100 pages, c'est aussi ça. C'est affirmer qu'il y a beaucoup de femmes compétentes dans tous les domaines, de toutes les idéologies, toutes les religions, et que c'est important de les connaître, que ce soit des féministes musulmanes, que ce soit des personnalités de la Manif pour tous, que ce soit des féministes, que ce soit des syndicaux anarchistes. Voilà, toutes les femmes notoires et remarquables méritent de ne pas être oubliées.
C'était la rediffusion des 100 pages Féminise Wikipédia, un reportage signé Constance Léon. La semaine prochaine, nous vous invitons à réentendre notre émission Total Bullshit, entretien avec le chercheur en neurosciences Sébastien Diegues.